Et il y avait là, celui qui peut vraiment faire cela. Je reviens à ce que je pense avoir commencé à dire tout à l'heure. Pourquoi c'était tellement nécessaire d'exhorter, de faire jurer Joseph, qui est tout puissant dans les vies, de faire ça, de ramener, parce qu'il ne suffit pas qu'il le souhaite et qu'il s'arrête de soi. Non, parce que les vies devaient empêcher, auraient empêché. Comment ? On ne vous renvoie pas la momie de Jacob. On ne sort pas les secrets de Rav et dit, c'est ce que tu veux. C'est-à-dire, c'est richesse culturelle nationale. Non, pas le sarcophage. C'est la seule fin de l'église. Importation. Exportation italienne. Et alors donc, il faut qu'il exerce Joseph, parce que vraiment Joseph a le pouvoir de le faire. D'où les circonstances très circonstanciées du récit qui nous montrent la stratégie de Joseph pour obtenir cela, et il l'obtient quand même, ça veut dire que ça n'a pas de soi. Et plus profondément de cela, c'est de Joseph qui doit exiger cela. Parce que c'est avec Joseph que l'exil a commencé. C'est donc Joseph qui va se charger de mettre fin à l'exil. Voilà tout ce que je voulais expliquer. En fait, on avait eu le temps de revenir plus avant maintenant. Mais ceci dit est dit en tout cas dans le Midrash. Il s'adresse à Joseph. Le Midrash, c'est sur le verset, de la fin du verset, Anna qui devait venir en Israël. Ne m'enterre pas en Égypte. Même en français, c'est très clair. Ne m'enterre pas en Égypte. C'est-à-dire que l'identité d'Israël ne soit pas enterrée en Égypte. Et le Midrash dit, c'est à cause de toi, pour toi, que je suis descendu en Égypte, mais ne m'enterre pas là-bas. Et donc, c'est la raison pour laquelle Joseph qui doit prendre sur lui cette promesse. Ce qui se passe là est très important, parce que comprenant ce que Jacob lui fait comprendre dans cette promesse qu'il lui arrache, dans ce serment qu'il lui fait faire, Joseph s'identifie lui-même et dit lui-même, « Anochi et Esse qui nous arrêchera », c'est la fin du verset 30, verset suivant, ça ne veut pas dire simplement je ferai comme ta parole, ce que tu m'as demandé, je le ferai, mais ça veut dire moi aussi je ferai comme tu as dit. Moi aussi je demanderai qu'on ramène les ossements en Égypte et vous le verrez d'ailleurs dans la suite du récit. Alors, je crois que c'est important de mettre ça en évidence. Finalement, toute l'histoire que nous avons étudiée dans le livre de Bereshit, puisqu'on est dans la dernière paracha, commence par un exil et finit par un exil. Ça commence par un exil, c'est l'exil du premier homme exilé du jardin d'Éden. Et puis ça finit par l'exil, c'est l'exil d'Israël en Égypte. Mais déjà, on nous est annoncé que ce stade est provisoire et que l'histoire d'Israël va commencer à la sortie d'Égypte. Et il y a entre le moment où le texte de Bereshit s'achève et le moment où le texte de Shemot commence, une interruption du récit, une espèce de cessation de la révélation. La parole qui parle à Israël n'a plus rien à lui dire tant qu'il est en Égypte. Sinon, et puis disent que je t'ai déjà dit, prépare-toi à écouter la fille. Mais ça se passe en Israël. Il est donc une espèce de nuit entre la fin du dernier verset de Bereshit et le premier verset du début de Shemot, qu'on commencera à lire la semaine prochaine. Blackout, total, je sais pas comment on dit ça
Un hiatus,
quand la lumière s'arrête. Blackout, non, pas un lumière comme ça. L'écran se baisse. Tout simplement, on relisait, si vous voulez, un des derniers versets. Qu'est-ce qu'on nous dit à la fin? Allez voir, bon, le verset, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous le retrouverez. Voilà comment s'achève ce récit. Un peu comme dans les contes de fées. Et il se marie et il fait beaucoup d'enfants. C'est tout ce qui se passe. C'est-à-dire, il se multiplie. Vous vous rappelez? Bien. Alors, on se retrouve à la sortie d'Égypte la fin prochaine. Les deux récits drogues du livre de Shemot. Je vais simplement vous rappeler un premier thème qui va nous introduire l'histoire de la première étape de la vie de Moïse. Et vous avez dû, je suppose, lire d'abord ce texte. Et je voudrais mettre en évidence une remarque importante, c'est que on assiste dans le récit, surtout à partir du chapitre 2, au fait que l'initiative de la sortie d'Égypte est prise par Moïse a priori de toute révélation. C'est ce texte que nous allons étudier, et qui commence au chapitre 2, versets 11, 12 et 13, pour commencer. Alors, c'est un thème auquel nous avons certainement fait déjà, Sira. Et je sais, c'est toujours comme ça au commencement, mais j'attends cette parole. Ça y est. Bien, j'espère que vous avez tous un livre, sinon essayez d'arranger, de vous arranger de suivre un sur deux. C'est pas grand, vous allez faire sans livre. Bien, alors je reviens à ce que je disais. Nous avons commencé à lire avec les sidrettes du livre de Shemot les récits de la Torah concernant les événements de la sortie de l'Égypte. Et il y a un certain nombre de thèmes d'introduction possibles que l'on pourrait étudier, nous les verrons chaque semaine. Mais le premier, je crois, qui est nécessaire de mettre en évidence, auquel on ne prend pas souvent garde, mais j'y ai fait souvent allusion, peut-être en relation avec d'autres sujets, c'est qu'on s'attendrait à l'idée que si la sortie d'Égypte est déclenchée, à travers Moïse bien entendu, c'est parce qu'il y a d'abord une intervention de Dieu qui le lui demande. En fait, c'est pas ainsi que le récit s'introduit. Nous aurons une première étape où Moïse prend lui-même l'initiative de la fin de l'exil en Égypte et donc de ce que nous avons appelé la sortie d'Égypte à proprement parler. Et ce n'est que bien plus tard qu'il y aura une révélation à Moïse qui lui confirmera sa propre initiative personnelle. Pourquoi c'est important? Parce que nous vivons dans les temps contemporains une occurrence de cet ordre, la fin d'une période d'exil. Et vous comprenez par vous-même les implications, la question se pose ainsi, est-ce qu'il faut attendre une révélation qui nous donne le feu vert, si j'ose dire, ou bien est-ce que nous ne sommes pas renvoyés à des modèles déjà existants dans l'histoire précédente qui nous éclairent à ce sujet, qu'il y a d'abord à faire un diagnostic par l'homme, l'initiative doit être prise par l'homme à partir de ce diagnostic, et ce n'est qu'ensuite que la confirmation est donnée. Nous avons déjà un premier exemple que nous avions étudié dans le livre de Bereshit, c'est la sortie d'Abraham de Kherim, vous vous rappelez de cela? Et la Torah est très claire, à la fin de la paracha de Noach, avant la paracha de Lech Lecha, on nous raconte cette sortie d'une famille des Hébreux de la civilisation de Kherim, et ce n'est qu'après cette initiative prise par la famille d'Abraham, sur l'explication d'Abraham, mais malgré tout le sujet du voyage dans le premier texte, je vous y référerai, c'est Terach lui-même, le père d'Abraham, et ce n'est qu'ensuite que vient cette confirmation avec l'Echer. Et il était peut-être nécessaire dans ce premier modèle de la sortie d'Abraham de la civilisation d'Okazim de préciser que le but du voyage, de l'exode, comme on pourrait déjà le dire à ce niveau-là, mais je reviendrai sur le terme d'exode tout à l'heure, puisque c'est par ce terme qu'on traduit le mot de Shemot, mais c'est le titre qu'on a donné au livre de Shemot, dont effectivement l'essentiel du récit, au moins dans les commencements, c'est la sortie d'Égypte elle-même, mais la signification est inversée. En principe, en français, on devrait employer le terme d'exode lorsque... lorsqu'on quitte son propre pays, on est, expulsé, exilé, déporté, alors on va en exode. Je ne sais pas si vous remarquez l'inversion de catégorie dans la traduction, c'est qu'ils sont sortis d'Égypte, mais pour rentrer chez eux. Et on ne devrait pas appeler ça l'exode, mais par un terme absolument inverse. Les dinodes. Et je crois que ça indique bien, je vais vous raconter une petite anecdote du folklore israélien, que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, c'est très significatif de la mentalité de l'exil. C'est-à-dire le fait d'avoir à quitter le pays d'exil pour revenir dans le pays d'Israël, ça s'appelle un exode. Je ne sais pas si dans les journaux, aujourd'hui, on parle de l'exode des villes d'Éthiopie ou du retour des villes d'Éthiopie. Et on raconte dans les années 30 à 50, 30 à 40, en tout cas, que les premiers groupes de juifs allemands qui sont arrivés dans le pays disaient, c'est apparemment inévitable, mais c'est très significatif, vous connaissez l'expression traditionnelle « Galinu me'artenu », nous avons été exilés de notre pays. Par exemple dans la phrase « Nipene hataenu galinu me'artenu », c'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre pays. Donc, c'est une question à étudier. la faute comme explication de l'exil. C'est un problème pour lui-même. Au point que nous aurons une autre lecture qui n'est pas exactement le chat de Mipene Chataeni à cause de nos fautes, mais qui est dans le terme lui-même, Mipene Chataeni, comme s'il y avait Nifne Chataeni. Avant d'avoir fauté, nous avons été exilés. Peut-être parce que Dieu savait qu'on allait le faire. Eh bien, cette expression Galini, Mer, c'est nous, était traditionnelle. Et puis voilà que lorsque les Juifs allemands sont arrivés dans le pays, au moment de Hitler, dans les années, ça a commencé dans les années 30, ils ont dit Galilou Berthe. Berthe. Nous avons été exilés dans notre pays. Bon, c'est très significatif. Alors, en fait, donc il s'agit de la fin de l'exil. Et comme je disais tout à l'heure, dans le récit modèle, préfiguration de modèle qui nous décrit la famille d'Abraham sortant d'Ouskadim, il était peut-être nécessaire, puisque c'était la première fois, de préciser que le but du voyage, du retour, c'était de revenir dans le pays de Canaan, comme il s'appelle au temps des Avot. Et malgré cela, la Torah ne l'indique pas tellement. C'est-à-dire que, comme si ça allait de soi, ce voyage doit ramener dans le pays de Canaan. C'est clair jusque là. Alors que nous allons voir que de façon extrêmement explicite, surtout on le verra dans la sidra de la semaine prochaine, au début de la paracha de Vaera, qu'il est nécessaire, comme si on l'avait oublié entre-temps, d'expliquer qu'à partir du moment où il est devenu nécessaire de quitter la civilisation d'Égypte, c'est bien vers le pays de Canaan, le pays donné au patriarche, au Harout, qu'il faut se diriger. Et il faut bien mettre ça en évidence. Comme si, entre-temps, on avait séparé deux éléments qui vont ensemble. Le fait que la fin de l'exil a pour objet une Géoula qui doit nous ramener de nouveau sur la terre. Mais d'ailleurs, quand vous étudierez le problème de l'exil pour lui-même, en particulier, un des sujets de ce problème, c'est qu'il y a deux types d'exil que le peuple d'Israël a vécu dans son histoire. L'exil qui consiste à quitter le pays d'Israël pour aller ailleurs, et puis les exils intérieurs à ce premier exil, lorsqu'une communauté est obligée, enfin, ou une partie du peuple est obligée de quitter un pays d'exil pour un autre pays d'exil, c'est un exil au second degré. Et tout se passe comme si, avec le temps, la tendance à l'exil au second degré risque de prendre le pas sur l'équation première qui est Galut Geula, qu'à partir du moment où l'exil est fini, il s'agit du retour. Je pense que j'étais suffisamment clair. Alors, c'est très important de voir que le texte va nous mettre ça en évidence. Il ne faut pas que les Hébreux d'Égypte, qui se résolvent finalement, in extremis, à décrocher de la civilisation égyptienne, pensent qu'on va quitter l'Égypte pour aller ailleurs, mais qu'il s'agit bien du retour dans le pays des anciens. Et on étudiera donc pourquoi, au moment de la sortie d'Égypte, il était nécessaire de le préciser, mais c'est pratiquement, et nous le verrons la prochaine fois, l'essentiel du chidouche, de la chose nouvelle qui est donnée dans la confirmation que Dieu donne à Moïse, que son initiative était bien ce qu'il fallait faire. Ce n'est pas encore indiqué dans l'initiative de Moïse lui-même. La première initiative que Moïse prend par lui-même, c'est de mettre fin à l'esclavage des Hébreux en Égypte, au stade où c'était arrivé, après le changement de dynastie auquel il y a une allusion dans le début de la paracha de Chélie. Voilà donc le premier thème qu'on va regarder en filigrane. Nous allons essayer de découvrir, d'apprendre, de mettre en évidence les raisons, les motivations qui ont mené Moïse à prendre cette initiative et quelle est la nature de son diagnostic qui met fin à toute une période de l'histoire d'Israël dont la Bible ne parle que par allusion, avec l'allusion du dernier verset que nous avons dit la dernière fois. Ils sont arrivés, la famille de Jacob et ses enfants sont arrivés, ont rejoint Joseph, sont arrivés dans la filiation d'Égypte, se sont mis à son service, et puis ils se sont multipliés. C'est pratiquement tout ce qu'on dit. Le texte s'arrête à la fin du livre de Joseph et ne va reprendre qu'au moment de cette initiative de Moïse de mettre fin à cette installation dans le paysage égyptien, paysage dans tous les sens, culturel, historique, territorial bien que le pays de gauche n'était pas l'Égypte même, une marche, pour employer ce terme-là, je ne sais pas qu'il y en a d'autres disponibles, enfin, c'est vrai que dans l'Antiquité, les empires avaient des protectorats, qu'on appelait des marches d'empire, c'est intéressant. C'est pas l'Égypte même vraiment, mais malgré tout, ça faisait partie de l'ère de souveraineté de l'Égypte. Et Joseph étant, lui, dans l'Égypte même, enfin, c'est pas le terme que nous avons étudié aujourd'hui, mais Joseph était au palais du roi. Oui, nous avons essayé de mettre en évidence la raison de ce diagnostic. Mais retenons d'abord une chose essentielle, il n'y a eu aucune révélation qui ait demandé quoi que ce soit à Moïse. Moïse a pris cette initiative par lui-même. Ce n'est que bien plus tard, 40 ans après, lorsque Moïse se sera enfui d'Égypte parce que sa première initiative va être empêchée, va se heurter à toute une série d'obstacles de la part des Hébreux d'un côté, de la part des Égyptiens de l'autre, qu'il y aura la première révélation à Moïse, qui est la révélation du buisson ardent. Et pour la Torah Shebaalpé, soit le Midrash, la Gemara, dans la Kabbalah, Moïse n'a encore aucune révélation avant la vision du buisson ardent. Alors, on va situer un peu les dates. La scène que nous allons étudier, où Moïse prend cette décision, et nous allons l'étudier par ce biais de tenter de mettre en évidence les raisons de son diagnostic. Dans cette scène, selon le Midrash, il y a une marque dans le Midrash. Il y a une opinion qui nous dit qu'il était âgé de 20 ans, et une opinion qui nous dit qu'il était âgé de 40 ans. Je vais prendre la deuxième opinion et ensuite expliquer la première. L'opinion la plus classique, c'est qu'il était âgé de 40 ans. Et à ce moment-là, fils adoptif du pharaon, il était à l'apogée de sa puissance, il était le véritable maître de l'Égypte. Retenons bien cette définition d'identité, de fonction. Et donc, tout se passe comme si on enchaîne sur le niveau de l'identité de Joseph. Moïse nous apparaît comme un Joseph quelques générations après. Cette histoire qui avait commencé à Joseph, où Joseph était le véritable maître de l'Égypte, on va la retrouver plus tard, au moment où il va falloir décrocher, et nous voyons de nouveau un personnage que nous savons être hébreu, mais que le texte n'a pas encore désigné comme hébreu, puisque il est simultanément, j'arrive là au deuxième point, et il est simultanément l'héritier du trône de l'Égypte, ou l'héritier de son père, qui est le chef de la tribu de Lévi, c'est-à-dire de l'identité des patriarches de Aaron, de l'identité d'Israël. Je approfondirai immédiatement ce deuxième point. Donc, d'abord le découpage historique, à l'âge de 40 ans, il va intervenir dans la forme qu'avait fini par prendre la relation de l'Égypte à l'Israël de ce temps, de l'Égypte aux Hébreux, qui est une relation d'asservissement et d'esclavage qui est, comme vous le savez, semble-t-il de façon inévitable, l'étape ultime de l'histoire d'un exil quel qu'il soit. Nous en avions le modèle des Hébreux au Kazim, et nous en avons un modèle ici beaucoup plus clair, beaucoup plus fouillé, les Hébreux en Égypte. Vous vous rappelez, nous avons vu ça précédemment, les différentes étapes du profil de l'histoire d'un exil. Dans le premier stade, on s'installe dans la gloire, on se rappelle, on est Hébreux, mais on est donc la formule l'année prochaine à Jérusalem, si vous voulez, elle a encore toute sa force, elle a toute son immédiateté. On se rappelle qu'on est hébreu en voyage. Deuxième stade, on s'installe. Troisième stade, commence. Je vous en fais des termes anachroniques, mais c'est le même phénomène. Simultanément et parallèlement, ce que l'on appelle l'assimilation et ce que l'on appelle l'antisémitisme. Ça, on l'avait vu déjà dans l'histoire de Jacob chez Laban. Vous vous rappelez de cela? Au début, lorsque Jacob arrive chez Laban, eh bien, il sait qu'il est le fils de Rivka et de Yitzhak qui sont restés dans le pays et qu'il a une mission urgente à faire. Ramener une matrice d'engendrement. Il en ramènera quatre. Mais enfin, ça c'est le premier stade. Et ça devait être rapide. Et puis, finalement, il s'installe. Et alors, à la fin de l'histoire de cette installation, la Torah nous dévoile le troisième volet de ce profil. Eh bien, Laban et les fils de Laban commencent à parler du sale juif. Je ne sais pas comment vous dire ça. Et puis, finalement, il est obligé de s'enfuir. Vous vous rappelez de ça? Alors là, la première opinion du Midrash nous dit qu'à l'âge de 40 ans, Moïse, à l'apogée de sa gloire, va intervenir dans la forme qu'avait fini par prendre la relation entre le maître et les esclaves, les juifs et les hébreux. Et ce qui est la définition typique de la situation d'exil. Même lorsque l'aliénation est de type, je ne sais pas comment dire, mort douce et pas mort violente, Même lorsque l'aliénation est insidieuse, lorsqu'elle se cache, elle n'en est que plus grave, mais il s'agit toujours d'une relation d'aliénation. Vous pouvez par vous-même analyser les implications de cette donnée. Ça va tourner court. On va voir et on essaiera de comprendre pourquoi Moïse se heurte à un obstacle radical, tant de la part des Hébreux que de la part des Égyptiens. Alors il est obligé de s'enfuir. Et il s'enfuit pendant 40 ans dans le pays de Midian. Pour ceux qui n'ont pas les généalogies en tête, je vous rappelle, mais ça joue un rôle important tout à l'heure, que Midian, le fondateur de la peuplade de Midian, est un des fils d'Abraham, qu'Abraham a engendré après Yitzhak, lorsque Abraham a épousé Keturah et qu'il a eu d'autres enfants que la Torah nous énumère dans ce passage du récit. Et un de ses enfants, c'est Midian. Retenons donc que Midian n'est pas censé être un inconnu, on peut l'identifier, il est d'une certaine manière héritier de l'identité d'Abraham. Ça jouera un rôle tout à l'heure dans le moment précis de l'analyse que nous allons rencontrer à ce sujet. Pendant 40 ans, pas de révélation, et Moïse est à Midian, un peu comme Jacob était chez Laban, le berger des troupeaux de Jéthro. Vous vous rappelez de cela. Et donc, c'est à l'âge de 80 ans, d'après cette première lecture, qu'il a la révélation du buisson ardent, que nous allons faire allusion déjà dans l'étude d'aujourd'hui, il retourne en Égypte et il prend la tête de la révolte. Donc pendant 80 ans, il n'a pas eu de révélation. Il a une expérience de, comment dire, chef politique de ce que sont censés être les Hébreux, manéhic d'Israël de ce temps-là, alors que officiellement, de qui s'agit-il? Il s'agit de l'héritier de la du trône du Pharaon et de la civilisation de l'Égypte. Il y a là donc une indication, c'est le deuxième point que j'ai signalé, une indication de profil d'identité qui est très importante, et peut-être que je vais commencer par là. L'autre opinion du Midrash qu'il avait 20 ans, il faut la comprendre comme ça, que l'expérience qu'il avait décrite dans cette scène que nous avons étudiée, il a mis 20 ans pour en tirer les conclusions. Il a commencé à avoir expérience de cela dont nous avons parlé, verset 11 et verset 12, à l'âge de 20 ans, et finalement il en a tiré les conclusions au niveau des événements historiques qu'à l'âge de 40 ans. Je vous renvoie à un thème d'explication très furtivement. Vous savez qu'il y a vers la fin des Pirkei Avot et Mishnah qui explique les niveaux de sagesse par rapport à l'âge. Il y a un certain niveau de sagesse à 20 ans, il y en a un autre à 40 ans. Alors, c'est pas le sujet maintenant. Pour ceux que ça intéresse, référez-vous à cette Mishnah et vous verrez. On appelle dans toute cette période de l'histoire de Moïse qui couvre les deux premières étapes de sa vie, 40 ans en Égypte, 40 ans à Midian, et ensuite 40 ans la sortie d'Égypte, la génération du désert, 3 fois 40, c'est les 120 ans qu'a vécu Moïse. Les deux premières étapes, on désigne Moïse par une expression que ceux qui font des Milouim connaissent maintenant, qu'il était Tiron Banevoua. Ça veut dire comment on peut traduire Tiron? Non, ça c'est en français. Apprenti. En apprentissage. Il était classe. Et donc Moïse, prophète, Moïse recevant la révélation explicite, c'est à l'âge de 80 ans. Vous avez de l'espoir. Mais on a fait un parallèle, je le signale en passant, parce que c'est important de le rappeler à la mémoire, avec l'histoire de qui? Très bien. De Rabbi Akiva, qui pendant 40 ans, vous rappelez, était un berger ignorant. Ensuite, pendant 40 ans, il a étudié. Et ensuite, pendant 40 ans, il a enseigné. Et il y a donc une analogie très importante entre Moïse, le médiateur de la Torah Shebirta, et Rabbi Akiva, qui est le médiateur de la Torah Shebalpé. D'ailleurs, c'est extrêmement parallèle. Bien. Alors, je reviens donc à ce récit. La question qui va se poser à nous, c'est: que s'est-il passé réellement dans cette scène qui semble être l'occasion pour Moïse d'avoir à prendre une décision qui, finalement, a une importance considérable pour l'histoire de l'humanité telle qu'en parle la Torah? Revenons au profil de l'identité de Moïse, pour que ce soit bien, bien clair. Il est, si je veux dire, l'image même de ce qu'on pourrait appeler en bonne part et en toute bonne foi, le juif de diaspora. un juif de diaspora, par quelques degrés que ce soit, participe de cette double appartenance d'identité de Moïse. Mais Moïse la représente de façon totale, absolue, limite, extrême. Il est simultanément le fils adoptif du pharaon, c'est-à-dire par lui peut passer l'avenir de la civilisation égyptienne, au service de laquelle il se trouve, adopté. Et d'autre part, il est le fils du chef de la tribu de Lévi, c'est-à-dire l'hébreu essentiel. Mais il est l'hébreu essentiel dans son intimité de vie privée, et officiellement dans son déguisement, si j'ose dire officiel, il est l'égyptien en chef. C'est-à-dire, vous pouvez par vous-même diagnostiquer énormément d'analogies dans l'histoire des civilisations, où l'on voit énormément de personnages du peuple juif de l'exil représenter un peu ce profil à la manière de Moïse, mais Moïse en étant l'image la plus accusée, la plus absolue. Comme l'était d'ailleurs dans, précédemment Joseph. C'est bien clair. Alors, comme nous savons, nous, que Moïse est hébreu. Mais pour le moment, tout ce que le lecteur est censé savoir, que Moïse est le fils adoptif de l'Égyptien. Alors nous allons suivre ces deux lignes de lecture simultanément pour pouvoir comprendre ce qui se passe vraiment. Et je crois que l'argumentation la plus fondamentale pour appuyer cette description de profil d'identité, c'est de se rappeler Joseph Moïse. Mais ils ont la même identité, si j'ose dire, dans le sens inverse. Joseph, c'est l'hébreu qui va s'habiller en égyptien. J'ai l'habitude de dire de se déguiser, mais enfin, il aimait ces habits-là. Oui. Donc, comme Mardochée a aimé les habits du chat de Perse. Mais, ou comme Disraeli aimait les pourquoi l'anglais. Je sais pas comment dire. Et puis, d'ailleurs, c'est très significatif le personnage de Disraeli. C'est dans cette ligne-là. Oui. Je ne sais pas si c'est une coïncidence qui s'appelle Disraeli en plus. Et vous pouvez d'ailleurs diagnostiquer des personnages à travers toute l'histoire du peuple juif en exil, et en France en particulier, nous en avons beaucoup. Je ne vais pas parler de Mitterrand, je reviens au sujet. C'est Joseph, c'est l'hébreu, c'est Miklabesh, c'est-à-dire j'essaye de trouver un terme en français qui dirait l'idée centrale, qui s'exprime comme un Égyptien. Au niveau de l'expression de son identité, il a adopté l'équation culturelle égyptienne au service de laquelle il s'est mis. Je vous ai annoncé tout à l'heure que ce profil, j'ai essayé de le définir en toute bonne foi, en toute bonne part. Simplement rappelez-vous comment le juif de l'exil est très sincèrement, de très bonne foi, quel que soit son intérieur de vie privée hébreu, ne fût-ce que par mémoire, parce qu'en général il oublie l'hébreu, mais de très bonne foi au service de ce profil d'identité de la civilisation du temps qu'il adopte en tant que Joseph. C'est clair ? C'était bien clair pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est un type de personnage que les non-juifs ont eu toujours une énorme difficulté à comprendre. Et c'est pas possible, mais essayons par imagination de se mettre à la place d'un goy assistant au phénomène juif de diaspora. C'est clair ? Je résiste pas à la tentation de vous raconter mon midrash à ce sujet. C'est lequel ? Vous l'avez déjà raconté, je crois, je sais pas quand. Hein ? Non. Non, ça c'est pas un midrash, c'est une catastrophe. Mais voilà, c'est l'histoire de la pépinière. Et il y a un jour une graine de pommier, vous vous rappelez de ça, qui est tombée dans un jardin de sapin. Ça s'appelle une sapinière. Alors la graine a poussé. Et je vous décode tout de suite. La graine de pommier, ça c'est un juif de l'église, apporté par le vent de l'église, etc. Et alors finalement, ça germe, et puis voilà un pommier qui pousse au milieu des sapins. Comme le pommier ne voyait autour de lui que des sapins, il a fini par se prendre pour un sapin. Alors un jour, les sapins intrigués lui ont demandé « Mais toi, qu'est-ce que tu es ?» Il a répondu « Je suis un sapin ». Alors ils lui ont dit « Mais tu ressembles à un pommier ». Il dit « Mais c'est que je suis un pommier ». Voilà, vous voyez ce problème. Comment vous voulez qu'un sapin comprenne qu'un pommier c'est un sapin ? Au niveau du Midrash, il y a peut-être une allusion par analogie. Parce que les fruits, c'est des pommes, là et là. Comme les hommes, c'est des hommes, si vous voulez. Mais enfin, il y a des manières d'être hommes, il y a des manières d'être pommes. Et là, voilà, et il arrive il arrive inévitablement qu'il y ait une question ultimatum, une interpellation. Alors finalement, Bétis, Pommier, il s'attend. Voilà, vous demandez. Alors je crois que ça va un peu dans le sens de l'autre histoire. Il y a une très grande difficulté pour le goy de Erochlimedze, comment on dit ça en français, comment avaler un juif. Mais, et je crois qu'il faut noter l'infinie patience et l'infinie générosité d'admettre cette histoire de fou. Vous comprenez le problème? Elle est incompréhensible, mais il l'admet. Mais il y a des limites à la patience, comme vous le savez, et il est évidemment à un stade où ça éclate, ça fait le poids des Allemands. Bon, je vais faire un français, mais je pense que c'est suffisamment clair. Vous imaginez les trésors de stratégie qu'un Joseph ou qu'un Moïse, dans le commencement de sa vie, doit déployer pour pouvoir, comme dirait Spinoza, se maintenir dans l'être. Parce que c'est une situation impossible. Et pourtant, ça a été la très longue histoire et héroïque, souvent, de la fidélité à soi-même dans cette stratégie très compliquée, hébreu à l'intérieur, égyptien à l'extérieur, Joseph Moïse. Eh bien, le premier point, c'est Joseph et l'hébreu s'exprimant ainsi, et encore une fois, j'ajoute, parce que c'est important de mettre en évidence, en toute sincérité, en toute bonne foi, et le pharaon l'a bien diagnostiqué, que le salut de son empire passait par ce type d'homme qui est l'hébreu égyptianisé. C'est bien clair. Moïse, c'est le même profil, mais dans le sens inverse. C'est l'hébreu qui va enlever le déguisement égyptien. C'est bien clair ? Et retenez une clause importante qui se relie à cette analyse, c'est que le Midrash va mettre l'accent sur ce que raconte la Torah, mais le Midrash va insister là-dessus, que Moïse ne quittera l'Égypte qu'en emportant avec lui les ossements de Joseph. Vous vous rappelez que c'était le dernier serment, la dernière promesse que Joseph avait fait faire à ses frères, que lorsque le moment de décrocher arriverait, qu'on emporte ses ossements, comme Jacob l'avait demandé, c'était l'étude de la dernière fois du Messie. En emportant les ossements de Joseph, Moïse réhabilite l'aventure de Joseph. Il la légitimise. Au temps de Joseph, le tzaddik, c'est Joseph. Au temps de Moïse, le tzaddik, c'est Moïse. Et c'est deux manières opposées d'être tzaddik par rapport au sujet traité. Si Moïse avait fait quitter le peuple sans emporter les ossements de Joseph, ça voulait dire qu'il accusait Joseph d'être traître à l'identité hébraïque. Alors qu'en rapportant les ossements de Joseph avec lui, il l'insère dans un mouvement à deux temps, si vous voulez, Galoute Géoula, en redonnant a posteriori une légitimité au temps de la Galoute qui était ce qu'il était au temps où il était. Elle était, la Galoute se finit. C'est clair, vous voyez. Bien. Mais du dedans de cette analyse, qui est importante pour elle-même, parce qu'elle nous donne encore une fois le modèle de cette identité très ambivalente, très difficile à percevoir, de ce que nous appelons le juif de diaspora. C'est bon clair. Et c'est très honorable d'avoir comme modèle Moïse, d'avoir premièrement Joseph comme modèle, et puis deuxièmement Moïse. Et cette histoire de Moïse à Midian en particulier, et on va y arriver assez rapidement, j'espère, ce soir, eh bien, va nous éclairer, c'est l'objet de cette étude, sur un profil extrêmement ambigu des types de juifs assimilés dans la diaspora contemporaine, d'ailleurs, et je reviendrai tout de suite. C'est ce fait que Moïse porte en lui la possibilité de faire bifurquer l'avenir de l'histoire, soit à travers l'équation égyptienne, s'il reste fidèle à son identité d'adoption, soit, ce qu'il a fait, de la faire bifurquer dans l'avenir hébraïque en donnant un futur au passé des Avotes. Si Moïse, vous savez, je répète souvent, on ne fait pas l'histoire à l'envers, surtout pas l'histoire de l'Égypte. Si Moïse avait choisi pour l'Égypte, eh bien, c'est pas que il n'aurait pas eu d'avenir hébraïque ou aveugle. C'est que de ce Moïse-là qui aurait choisi pour l'Égypte, on n'aurait pas parlé. On aurait parlé de celui qui n'a pas choisi pour l'Égypte. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire que, et cela nous en avons eu expérience dans l'histoire, il y a dû y avoir énormément de paramoïdes, si j'ose dire, ou de pseudo-moïdes qui se sont perdus dans le paysage égyptien. Comme il y a eu énormément de juifs qui auraient pu être le juif redevenu hébreu, mais qui se sont perdus dans le paysage de leur exil. C'est bien clair. D'ailleurs, la Torah ne nous aurait pas parlé de ce Moïse. Mais elle fait allusion qu'à chaque génération de l'histoire de l'humanité, depuis le commencement de l'histoire de l'humanité, elle fait allusion dans un autre chapitre du livre de Bereshit précédent, qu'à chaque génération, il y a
un personnage du récit de l'histoire humaine capable d'être Moïse. Nous avons le récit historique de celui qui a réussi à l'être. Vous vous rappelez à quoi ça fait allusion pour ce qu'on vous a étudié là ? Je vous ai dit là. Loyadon Ruchi Baadam Beshagam Ru Basaf. Vous vous rappelez de cela ? Au moment de la génération du déluge, il y avait un Moïse possible qui aurait pu sauver cette humanité-là, mais il n'a pas réussi. C'est en allusion dans ce verset, je ne l'ai pas traduit intentionnellement. Okay. La Gemara a été très lucide à ce niveau. À chaque génération, l'équation d'identité Israël et Goïm existe, plus ou moins fou, plus ou moins clandestine, plus ou moins, je ne sais pas comment dire, plus ou moins occultée. Elle existe. Celle dont il nous est parlé, c'est celle de l'époque qui commence avec Abraham et qui a son apogée ici avec Moïse. Ce Moïse-là, c'est un Moïse authentique. Mais il est possible, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Hein. Et il est possible, encore une fois, qu'il y ait eu des personnes de l'histoire d'Israël qui auraient pu jouer ce rôle, mais qui ont fait le choix inverse. Ils ont choisi. Je crois, je vais donner un peu de mon sentiment de sensibilité personnelle. Parmi tous les grands juifs de la génération contemporaine qui se sont assimilés de façon, comment dire, démesurée, intentionnelle. Je crois qu'il y en a un qui me représente à moi un échantillonnage possible. Cela, quelqu'un qui aurait pu être un manéhide du peuple juif, mais qui a préféré être un Français. C'est Raymond Aron. Je ne sais pas si vous voyez plus de ce genre de profil. Je ne parle pas de Robert Aron, qui est un tout autre cas, mais Raymond Aron. Ou Médé France, finalement, voilà. Je crois que Raymond Aron, c'est beaucoup plus clair. C'est ça qu'il a dit. C'est-à-dire mettre le potentiel des valeurs hébraïques, de l'hérédité hébraïque, si j'ose dire, au service pur et simple de la civilisation du temps. Il y a une générosité universaliste absolue, une espèce de raté du messianisme, si j'ose dire, mais qu'il faut bien comprendre pour lui-même. Et il le dit lui-même que son appartenance à l'identité juive, donc hébraïque, il la nie pas, mais elle est pour lui un mystère. Un Moïse non élucidé. Vous avez dit ce que Raymond Aron a dit de lui-même à ce sujet. Il demeure d'ailleurs dans des circonstances, puisque je parle de lui, je ne sais pas pourquoi, enfin, là au rabat, mais il demeure dans des circonstances assez exceptionnelles. Je vais dire ça très rapidement. Il y a un auteur israélien, Sternel, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait une étude sur la période de l'occupation, qui a désigné, je le dis, un Français comme collaborateur. Et puis Raymond Aron est allé au secours de ce Français accusé par l'Israélien d'avoir été collaborateur. Je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'est un nom à tiroir.
Non.
Et alors que. Non. Dans la mairie. Tous les races de Chavon sont et Raymond Aron est allé témoigner au procès pour Bertrand de Gouvenel, donc, puisqu'il s'agit de lui. Et en sortant de l'audience, il a eu une syncope, il en est mort. Bon, c'est arrivé comme ça. C'était un grand homme. Et puis, je profite de cet exemple pour essayer de situer le sérieux de cette difficulté d'être avec ce modèle Joseph Moïse. Et à la limite, les deux fidélités sont très sincères. Bien sûr, il y a toutes les nuances possibles dans l'équation personnelle de chacun, mais là, nous avons le modèle en lui-même. Mais c'est une double fidélité impossible. Je crois que Malraux disait qu'une double fidélité était toujours une double infidélité. Mais c'est bien cela. Non ? Non, l'autre n'a pas fait. Éric Valdeuil. Il faut assimiler, comme on dit aujourd'hui, comme on dit à l'époque.
Il volait.
Et alors, ça c'est dans un certain domaine, mais dans tous les domaines, vous avez eu de ces grands groupes de ce type-là, et dans toutes les cultures, et dans toutes les civilisations. Alors c'est comme ça qu'on va identifier Moïse au moment du récit. Je pense que c'est bien fait. Voilà, ce que j'ai dit de Moïse, que s'il avait échoué, on n'en aurait pas parlé, c'est la même chose pour Joseph aussi. Il y a eu énormément de para-Joseph, de pseudo-Joseph qui se sont perdus. Bon. Moïse, lui, ajoute un élément à ce profil d'identité. Donc, il arrive un moment où il est nécessaire de faire un diagnostic, et ce diagnostic est important pour l'histoire de l'humanité, au service de laquelle on est censé être, en tant que goy et en tant que juif, et l'erreur dans ce diagnostic serait catastrophe. C'est ce qu'invite l'histoire de Moïse dans ce problème de l'identité Joseph. Alors commençons au verset 11 du chapitre 2. Bayri, Bayari Mahem. Et il arriva, verset 11 du chapitre 2. Bayri, Bayari Mahem. Et il arriva en ces jours-là, Bayidal Moshe, Moïse grandit, Bayete Elechav, et il sortit vers ses frères. Alors je demande une attention de notre juge. Nous qui savons qu'il est hébreu, nous avons tendance à lire immédiatement une sortie vers ses frères les Hébreux. Frères. Alors le texte n'a pas donné cette précision-là. Et comme nous connaissons Moïse, nous savons que ce n'est pas encore évident. Enfin, la manière dont j'ai défini jusqu'à présent le profil d'identité de Moïse, ses frères, ça pourrait être les Égyptiens, ça pourrait être les Hébreux. Imaginons la perplexité d'un juge des diasporas en lui demandant si on lui demandait qui sont tes frères. Il est obligé de répondre en le même mot deux choses différentes à la fois, les uns et les autres. C'est clair. Dans la mesure où nous avons vraiment affaire à un profil d'identité authentique, pas un faux monnayeur. Vous comprenez ? C'est bien évident qu'un reprenant Raymond Aron, il le dit puisqu'il l'a écrit, il vous dira mes frères c'est les Français, et il n'y a pas de doute, et mes frères c'est les Juifs, et il n'y a pas de doute. Et comment ça peut marcher ? J'ai compris le problème. Vous avez tous ces formules amphigouriques, on voit des sermons des rabbins français, on ne peut pas demander à un homme de choisir entre son père et sa mère. Mais pour un juif, le père et la mère sont juifs, il n'y a pas de problème. Alors la mère ce serait la France, le père ce serait Israël, et réciproquement. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est un faux problème. Je veux dire, c'est une fausse donnée du problème. Je ne fais pas ça. C'est bien clair ? Alors, on ne sait pas encore qui sont ses frères. Mais le chidouche commence là. Alors, de nouveau, nous avons une méthode d'étude que je vous rappelle. On ne connaît pas la suite. Si on lit le début en préjugeant de la suite, qu'on connaît déjà parce qu'on l'a lu l'année dernière, alors on ne va pas lire ce qu'il y a d'écrit. On va préjuger purement et simplement. Alors que finalement, il va se dévoiler. Parce que oui, c'est vrai, c'est les Hébreux. On ne sait pas encore. Vous avez lu l'expression « Vayetse Elechav » et il sortit vers ses frères. Ça veut dire arrive le moment où il doit décider de choisir qui sont ses frères. Jusque-là, la Torah ne nous a pas dit plus. C'est bien clair ? Vayetse Elechav. Il a porté, le midrash à lire sous les yeux, enfin en mémoire, pendant tout ce temps-là, 20 ans plus 20 ans, en tout cas 40 ans, il a porté cette problématique d'identité difficile, il l'a assumé de deux côtés à la fois, il était du côté des Égyptiens en tant que le fils du Pharaon, et du côté des Hébreux en tant que le fils du chef de la tribu de Lévi. Les Midrashim sont très clairs, les uns et les autres, il y a adhéré, il a collaboré au travail de l'Égypte dans ce travail mixte, et au travail des Hébreux dans ce travail mixte, des Hébreux au service de la filiation du temps. Et lorsqu'il y a un service de ce type, il y a un maître et un serviteur. Mais l'échec, c'est que le maître est devenu le tyran et les serviteurs l'esclave. Est-ce que c'est bien clair ? Le Midrash dit par exemple, non, ce Midrash, je vais le citer juste dans l'expression suivante, et on y arrive. Alors jusque-là, Rayetse et les frères. Il sortit vers ses frères, programme, il va chercher ses frères. Mais lesquels sont-ils ? On ne sait pas encore. Ça va jusque-là ? Bon. Je reviens sur un enseignement très important du Midrash. Je voulais dire d'ailleurs de qui j'ai entendu la première fois. C'est d'un rosh-yeshiva assez important d'une tendance pas du tout sioniste, mais enfin, un grand rosh-yeshiva.
Vous avez fait en France une tirade extraordinaire en plus de santé et la source dans le Midrash. Il s'est posé la question, le Midrash s'est posé la question, on savait déjà que Moïse avait grandi. On le savait du verset 10, donnez le verset 10. Vaïga la Yéret, et l'enfant grandit. Pourquoi est-il nécessaire de nous redire encore ici, Vaïga le Moshe, et Moïse grandit. Alors regardons Rachel. Prenez Rachid sur le verset 11. Alors je vous dis Rachid. Mais n'est-ce pas qu'il est déjà ici?